France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Gaël Faye, chanteur, écrivain.
Bonjour Gaël Faye.
Bonjour.
Premier épisode, à l'ombre des jacarandas. Musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète et romancier. Vous êtes devenu célèbre en un album et en un roman. L'album, c'était Pili Pili sur un croissant au beurre, qui date de 2013. Le roman, c'est Petit Pays, qui est apparu chez Grasset en 2016. 1,5 million d'exemplaires. Le Goncourt des lycéens, le prix du roman FNAC, le prix roman des étudiants France Culture Télérama, une adaptation au cinéma. C'est allé très vite. Mais vous ne vous êtes pas arrêté à cette bascule. Votre vie ayant déjà basculé plusieurs fois avant vos 30 ans, après quelques EP, vous avez sorti un deuxième album, Lundi Méchant, en 2020, puis un troisième avec vos amis Ben Mazué et Grand Corps Malade. On vous doit aussi un documentaire, très fort, Le Silence des Mots, réalisé en 2022 pour Arte, dont on reparlera aussi dans Ses Avoies Nues. Et puis enfin, en septembre 2024, apparu votre second roman, ou deuxième, j'ai envie de dire, parce qu'il y en aura nécessairement d'autres, intitulé Jacaranda, qui est apparu également chez Grasset et qui a remporté le prix Renaudot. Autrement dit, vous n'avez que 42 ans, vous êtes né le 6 août 1982, mais déjà une vie faite de plusieurs, d'où cette série qui, nécessairement, en impliquera peut-être une deuxième dans 30 ans, nous verrons bien. Et comme chez vous, Gaël Faye, c'est à la fois à Paris, en France, et à Kigali, au Rwanda, on avait le choix, allez, on fait celle-ci à Paris, mais on espère bien faire la prochaine à Kigali.
Avec plaisir.
On peut dire que musicien et écrivain, noir et blanc, français et rwandais, vous êtes peut-être, alors ça c'est la question à l'écrivain chanteur que vous êtes un hé-hé. Est-ce qu'il vaut mieux être un hé-hé qu'un ou-ou?
Ah oui, ça c'est sûr. Je préfère être un hé-hé qu'un ou-ou.
Ça veut dire quoi pour vous?
Ça veut dire que je suis multiple dans mon unité. Je parviens à réunir de façon harmonieuse tous les affluents qui m'irriguent. J'arrive à conjuguer toutes mes identités plurielles, et ça c'est un travail, parce que c'est d'abord une prise de conscience, c'est aussi se défaire et se départir du regard de l'autre, c'est apprendre à s'accepter, à se respecter également. J'ai toujours vécu avec cette injonction à choisir un camp. Et mon combat, c'est celui de refuser l'injonction.
Ce n'est pas une position facile. Hein. Dans une chanson d'ailleurs que vous avez écrite, Dinosaure, vous dites « Je suis le fils des antipodes ». Ce n'est pas évident de réunir les antipodes. C'est pour ça que vous dites que c'est un travail.
Oui, c'est un travail, d'autant plus que j'arrive dans une famille qui n'a pas réfléchi à cette question. Donc, une famille où il y a des Noirs dans une partie de ma famille et une autre partie de ma famille où il y a des Blancs. Et ils n'ont pas réfléchi à la conséquence d'avoir des enfants métis. Par exemple, mon épouse est métisse, nos filles sont métisses. Et donc, on a les mots pour décrire cette situation, pour décrire cette place. On a non seulement les mots pour décrire, mais on a aussi l'expérience. Donc un enfant métis qui arrive dans des familles où on n'a pas réfléchi, c'est à lui de faire ce travail si les parents ne l'accompagnent pas. Et moi, ça a été mon cas, et ça a été long, et ça reste une interrogation encore. Hein, rien n'est jamais gagné.
Cette famille qui est la vôtre, Gaël Faye, on va en dire un mot. Vous êtes le fils d'un Patrice français. C'est le fameux croissant au beurre de la chanson et de l'album Pili Pili sur un croissant au beurre. Lyonnais, mais Burundais de cœur. Et puis citoyen du monde, un peu aussi. Et puis de l'autre côté, il y a votre mère rwandaise, Assumpta. La Pili Pili, Pili Pili étant un piment. Elle qui est d'origine rwandaise, mais réfugiée au Burundi. Et leur rencontre, peut-être une rencontre improbable que je vais vous laisser nous raconter, leur rencontre est à Bujumbura, je le rappelle, la capitale du Burundi. Et c'est ce que vous racontez dans cette chanson, Pili Pili sur un croissant au beurre. Vous nous la rappelez? Vous nous la racontez?
Oui.
Cette rencontre?
Alors c'est une rencontre que je trouve belle, parce qu'elle elle est l'interruption d'un rêve qui était le rêve de mon père, de faire le tour du monde à vélo. Et bon, il a quand même voyagé pendant 5 ans. Et il a quitté donc son Lyon natal après un CAP de plomberie et puis son service militaire. Il rêvait d'ailleurs. Et donc, il est allé sur plusieurs continents. Et puis, en traversant l'Afrique, il est passé par ce pays qu'il ne connaissait pas, le Burundi, qui est minuscule, microscopique sur la carte, la grande carte d'Afrique. Et il a rencontré par hasard, au bord de la route, ma mère, qui était, elle, réfugiée rwandaise au Burundi, qui avait quitté le Rwanda à l'âge de 13 ans, fuyant les massacres contre la minorité Tutsi.
Dès 61.
Voilà.
Il n'y a pas eu que le génocide
exactement.
De 1994, il y a eu des précédents massacres.
Tout à fait. Et donc, ils se sont fréquentés. Ma mère est tombée enceinte assez rapidement. Et mon père, au lieu de continuer son voyage, il est resté. Et ils ont eu deux enfants, donc ma sœur et moi. Et très rapidement, j'appelle ça le malentendu des couples mixtes, que j'essaye un peu de raconter dans Petit Pays. Ma mère est partie vivre en France. Mon père est resté au
Burundi.
Vous aviez
3 ans.
J'avais 4 ans.
4 ans.
Oui, c'est ça. J'avais 4 ans. Ma sœur avait 1 an. Donc nous avons grandi avec notre père français au Burundi.
Alors que votre mère burundaise d'adoption, disons,
exactement.
Est partie en France.
Est partie vivre en France, ouais. Donc déjà, c'était une configuration particulière.
Absolument.
Ouais. Et donc, on a grandi dans ce Burundi avec ce père particulier aussi.
Père particulier qui, dans un film qui a été fait sur vous, Gaël Faye, « Quand deux fleuves se rencontrent », réalisé par Toumani Sangaré et Nicolas Bosino, au moment de la fabrication de votre premier album en 2012. Donc, votre père dit, de vous, ou de lui en tout cas, que avec lui, c'était la tendresse et la dureté.
Oui, je l'ai vécu comme un père copain. J'avais jamais l'impression d'avoir une véritable autorité parentale. Tous mes copains m'enviaient ce père un peu fantasque, qui faisait du théâtre et était herpétologiste et s'occupait de...
C'est-à-dire qu'il était spécialiste des reptiles.
Des reptiles, voilà. Donc, ce qui faisait qu'on vivait dans une maison avec des reptiles partout. Mais quand je dis partout, c'était vraiment partout. Des centaines et des centaines de serpents et puis des crocodiles. Et mon père, c'était un poète, un beatnik, un peu anarchiste. Et donc, on riait beaucoup avec lui. Et il cherchait ce rire. Il nous amenait partout. Je crois que j'ai vu tous les coins du Burundi. Je suis allé dans des endroits inimaginables.
Chasser le serpent.
Voilà, pour attraper des serpents, pour aller voir des crocodiles, capturer des crapauds dans les marais la nuit, dormir à la Belle Étoile. Tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait. Et au-delà de la tendresse, parce que je sais pas, j'utiliserai pas forcément ce mot-là, mais je dirais l'amitié, la liberté, la confiance aussi. J'ai toujours trouvé que mon père avait confiance en nous et une grande liberté qui était parfois même insécurisante, parce que c'est-à-dire il n'y avait pas de limite. Exactement. Même quand la guerre est arrivée, on continuait d'aller dans des zones où il y avait des embuscades et tout le monde considérait que mon père était inconscient. Mais étant petit, moi, c'était normal, c'était quelque chose de normal. Mais je crois que ça m'a peut-être, moi, poussé à être plus raisonnable que ce que j'aurais dû être en tant qu'enfant et puis après jeune adolescent. Parce que quand on vit avec une autorité qui n'en est pas une, et je pense qu'en tant qu'enfant, on cherche des limites, on cherche un cadre. Et ce cadre n'existant pas vraiment, je me le suis créé. Alors après, je dis pas, il y a aussi des questions de personnalité. Je pense que j'avais déjà quelque chose comme ça en moi, mais très rapidement, par exemple, j'avais l'impression que j'étais beaucoup plus responsable de ma petite sœur que mon père parfois.
Et votre père, Gaël Faye, était aussi expansif que votre mère était pudique, réservée, silencieuse.
Ouais.
Vous dites beaucoup que vous savez des choses sur la famille paternelle. Bah, par exemple, vous savez que vos grands-parents, du côté de votre père, étaient réfugiés espagnols. Donc il y a quand même une longue lignée de réfugiés. Mais vous dites aussi beaucoup que de l'autre côté, bon, de fait, vous ne viviez pas avec elle, mais quand même, vous ne saviez quasiment rien sur votre mère, à part qu'elle avait grandi dans un camp de réfugiés, qu'elle avait des papiers d'identité du HCR, mais très peu de choses sur là d'où elle venait, quoi. Et que vous avez toujours cherché à savoir ce qui était arrivé. En particulier, vous avez connu votre grand-mère, Mariana.
Mariana. Et j'ai aussi connu sa mère, Rosalie, dont je fais une figure assez centrale
dans
Petit Pays et dans Jacaranda.
Absolument. Ouais. Mais en revanche, vous savez rien sur votre grand-père maternel, Emmanuel, auquel vous ressemblez pourtant beaucoup, vous a-t-on dit?
Oui.
C'est un manque, ça?
Ça a toujours été un manque, mais que j'ai pallié avec l'écriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste un manque, mais ce n'est plus une douleur. C'était une douleur, et même plus qu'une douleur, c'était une colère. C'était une colère comme si on me cachait ce qui me revenait de droit. Une connaissance ou une histoire qui m'appartenait. Et cette colère-là, je pense que je l'ai exprimée. Une partie de ma démarche d'écriture, elle tendait à canaliser cette colère-là.
Avant la colère, quand même, Gaël Faye, il y a, disons, 12 ans, 13 ans d'insouciance,
oui,
de liberté avec votre père,
oui,
à Bujumbura. Bujumbura qui est non seulement une ville pour vous, un cadre de vie, mais un vrai personnage aussi des livres que vous avez fait, en particulier de Petit Pays, bien sûr, surtout de Petit Pays, et d'un certain nombre de vos chansons. Bouja Bouja, par exemple. Bouja Bouja, c'est une carte postale de Bujumbura sur un rythme de rumba congolaise. Alors j'aimerais bien que vous nous replongiez dans ce Bujumbura de votre enfance, de l'innocence, on va dire, de ce paradis perdu qui était le vôtre.
Bouja, c'était la maison. Bouja, c'était le centre du monde. Je pourrais dire que c'était parfait pour moi. Alors est-ce que c'est le moment où... où la nostalgie refaçonne nos souvenirs, mais il y avait tout ce que je recherchais et tout ce que je pense que je continue de chercher, cette insouciance et ce lien aussi, parce que partout où j'allais, je connaissais les gens, le climat. J'aimais ce climat tropical, mais pas trop chaud non plus, avec et les collines et le lac, une sensation d'être d'être entre la plaine et la montagne. Et puis Bujumbura, une ville où urbanistiquement c'était elle avait les bonnes proportions, enfin une proportion presque idéale. Les quartiers étaient bien délimités, ça avait été donc une ville, hein, construite et créée par les colons belges, avec des influences très art déco, Baos. Des maisons, il faisait bon vivre, en tout cas dans les quartiers où moi j'ai grandi. Il y avait d'autres quartiers, les quartiers par exemple de ma famille maternelle, qui étaient des quartiers beaucoup plus populaires, beaucoup plus pauvres, mais qui n'étaient pas ce qu'on peut s'imaginer parfois de l'Afrique, des bidonvilles. Tout était organisé avec des numéros de rue, avec des noms de rue. Une ville aussi où il y avait beaucoup de nature, beaucoup de...
Dans la maison, par exemple, j'avais un immense ficus.
Ah oui, ouais, ça c'est mon ficus. C'était un ami, quoi. Le ficus elastica de mon jardin. Si Bujumbura était le centre de l'univers, c'était le noyau. C'était le noyau de cet univers, le ficus. Et j'y ai passé toute ma vie. Donc c'est très étrange parce que malgré la distance qui me sépare, temporelle, qui me sépare de ces moments-là, je reviens tout le temps à ce lieu. Et il a disparu, bien entendu, hein, mais j'y reviens toujours.
Il faut juste peut-être ouvrir une parenthèse pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas situer le Burundi. Parce que vous avez dit que c'est un microscopique pays sur l'échelle du continent africain. De fait, quand on regarde une carte, alors il est juste en dessous du Rwanda.
Il faut s'approcher. Hein,
faut pas exagérer.
Non, si, si.
Faut... C'est vrai que c'est petit. Surtout, ah oui, quand, il a l'énorme
quand on a
République
la carte, quand,
démocratique
voilà,
du Congo.
Exactement. Quand on a la carte face à soi,
à l'ouest,
il faut s'approcher. On peut pas le... C'est vraiment... Enfin, il faut s'imaginer que ce qui était le Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, fait quatre fois la France et que le Burundi est plus petit que la Bretagne.
Oui, oui. C'est vraiment un petit pays.
C'est petit, oui.
Et à l'est, c'est la Tanzanie.
Exactement.
Et donc, il n'est pas au bord de la mer, ce Burundi, mais il a un énorme lac, puisque c'est quand même dans la région des Grands Lacs, l'énorme lac Tanganyika.
Mon père nous emmenait là-bas, et c'était la sensation d'une mer. Le lac Tanganyika est plus grand que le Burundi. C'est, je crois, le deuxième plus grand lac au monde. Donc, on a cette sensation d'horizon infini à certains points du lac. Dans la largeur, on voyait toujours les montagnes du Zaïre, donc du Congo aujourd'hui, de la RDC. Et puis, c'est la fracture de l'Afrique à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là que l'Afrique se sépare. Donc le lac est très très profond. Il y avait énormément de légendes autour du lac. Et oui, c'était... bien que nous étions dans un pays enclavé, je ne ressentais pas cet enclavement.
Et dans la ville, ça bougeait dans tous les sens. Bouja-bouja, oui. C'est aussi ça. Dans la ville, ça bougeait dans tous les sens. Vous l'avez dit, hein, Gaël Faye, écrit, chanté, les numéros de téléphone à quatre chiffres, les jardins de Bougainvilliers, les salons de coiffure à Bouyenzi, les cinémas, la bière Primus, les brochettes du quartier asiatique, le français, le kirundi, le swahili, le parfum de la citronnelle, les termites, les jours d'orage, les jacarandas en fleurs, et les après-midi à ne rien faire. Parce que ça aussi, c'était possible. Avant... la date fatidique du 21 octobre 1993, on va y venir, mais ces après-midi à s'ennuyer sans fin.
Bah ouais, c'était...
C'est le titre d'une chanson, hein,
c'était ça aussi, mon goût de la liberté, mon goût de regarder les secondes s'écrouler, de prendre son temps. C'est ce que m'a appris le rythme de vie à Bujumbura. J'allais au lycée français, enfin nous on l'appelait l'école française, donc on y rentrait en maternelle, on y ressortait pour le baccalauréat, donc dans une enceinte on avait tous les âges, et cette école, elle accueillait des enfants du monde entier. C'était la grande époque encore de la coopération française, donc il y avait, nos enseignants étaient français, ils venaient avec leur famille, mais il y avait les Congolais, enfin les Zaïrois à l'époque, les Rwandais, les Burundais, beaucoup de camarades qui venaient d'un quartier de Bujumbura qu'on appelle le quartier asiatique. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'était une autre Asie, c'était plutôt des Indiens, des Pakistanais, des Belges également, même s'il y avait une école belge, mais on avait, voilà, il y avait quelques Belges, il y avait des. Voilà, il y avait. Énormément de nationalités, ce qui m'a appris aussi à être ouvert sur le monde. Beaucoup plus, peut-être après, que les classes que j'ai rencontrées en arrivant en France. Donc c'était ça aussi, c'était quelque chose d'assez particulier, d'être dans un pays enclavé, africain, et pourtant être ouvert sur la planète, sur le monde entier, parce que je côtoyais, voilà, des gens de tous les horizons. Cette école française avait la particularité, en tout cas jusqu'au collège, il n'y avait pas cours l'après-midi. Donc on rentrait chez nous l'après-midi, et puis bon, moi, mon père n'était jamais là, il était toujours en vadrouille. Voilà, et donc nous étions à la maison un peu...
Livré à vous-même.
Voilà, livré à nous-mêmes. La chance que j'avais, c'était qu'il y avait ce quartier avec des enfants... dans les maisons qui aussi souvent étaient livrées à eux-mêmes. Et donc, on a inventé des jeux. On a appris à faire bande, à faire camaraderie, à explorer nos environnements sans le regard des adultes qui nous restreignent. Et ça aussi, c'est quand même un immense privilège. Je regarde des enfants aujourd'hui qui m'entourent et n'ont pas la liberté que nous avions. Nous étions vraiment libres.
La liberté, c'est peut-être aussi, Gaëlle Faye, la liberté de rêver, de laisser aller son imagination, qui est quand même quelque chose qui est propice à la création. Alors, je ne sais pas à quel âge vous avez commencé d'écrire, de gratter des mots.
J'ai commencé à écrire vraiment très peu de temps avant de quitter le Burundi, donc vers 12 ans. Mais avant, c'est vrai qu'il y avait cette liberté très grande, parce qu'aussi, nous n'avions pas d'écran, par exemple. Et il n'y avait pas aussi de livres dans la maison, très peu. Quelques-uns, de temps en temps, dont des livres qui m'étaient envoyés d'Europe. Donc, c'était aussi un contexte dans lequel on tentait de fabriquer de l'activité. Enfin, l'imagination tournait à plein régime. Ça, je m'en suis rendu compte bien après, parce que sur le coup, c'était un peu normal. C'était comme ça qu'on vivait. Mais effectivement, on a tenté plein de choses. On s'est mis dans la peau de milliers de personnages. Je me souviens, c'est vraiment une anecdote, mais je me souviens, par exemple, un des chiens que j'aimais beaucoup, qui est décédé. Elle s'appelait Mirza. Et lorsqu'elle est décédée, on a, avec les copains du quartier, organisé d'immenses funérailles. Quand j'y repense vraiment avec émotion, parce que c'était notre république d'enfants. Comme à la maison, mon père avait une entreprise de construction, donc il y avait des plombiers, il y avait des menuisiers, il y avait plein de choses. Donc on avait des outils, donc on a fabriqué un cercueil, on est allé chercher des fleurs dans le quartier, on a écrit des chansons, et puis on a fait une procession avec des pleureuses parmi les enfants, on a enterré dans le jardin avec une croix, avec un nom. À l'époque, c'était un moment très triste, mais c'est vrai que d'inventer ces rituels d'enfants de façon aussi sérieuse et aussi poétique, c'est quelque chose qui est toujours là aussi en moi, en tant qu'adulte qui tente d'être artiste, de créer. Je me souviens de ces moments-là de pure création, qui n'était pas de la création, enfin, qui était une forme quand même de création. Et je crois que vraiment, ça m'habite encore, tous ces moments-là. Et puis des histoires comme ça, il y en a des centaines.
D'autant que cette poésie, cette république d'enfants dont vous parlez, Gaëlle Faye, a connu un coup d'arrêt assez brutal. Le 21 octobre 1993, jour où le président qui avait été élu démocratiquement 3 mois plus tôt, a été assassiné. Et à partir de là, le cauchemar a commencé, parce que la guerre est arrivée... Dans votre vie,
oui.
Et la situation est devenue impossible. Terreur.
Ouais, ça a été, ça a vraiment été.
C'était une bascule.
Une bascule terrible. C'est comme si d'un coup je ne reconnaissais pas le pays dans lequel j'avais grandi. Tout a changé à une vitesse folle. Ça correspondait aussi pour moi à la fin. À l'entrée au collège. Donc c'est-à-dire que dans ma petite vie personnelle, il y avait aussi cette bascule-là de l'enfance au collège et puis cette guerre qui arrive et d'un coup, les identités meurtrières. Se rendre compte que je ne suis pas simplement le petit Muzungu du quartier. Donc Muzungu, c'est le blanc. De me poser la question de... C'est quoi ces fameuses ethnies dont on parle? Qu'est-ce que c'est que Hutu et Tutsi qui n'arrêtaient pas de revenir en boucle dans la parole des adultes et qui commençaient à se diffuser dans nos discussions d'enfants? Et puis la peur est arrivée, une peur qui ne quittait jamais mon ventre, une peur de mourir. Et qui était en plus ravivée, alimentée par la situation, les lynchages, les morts de gens que l'on côtoyait et qui, dont on apprenait qu'ils avaient été tués, qu'ils étaient tombés dans des embuscades et qu'ils avaient été massacrés. Et donc, tout ça qui enfle en permanence. Et malgré tout, la vie qui continue. C'est ça qui était... On continuait d'aller à l'école, on continuait d'aller aux anniversaires. Donc parfois, il y avait un anniversaire et d'un coup, on entendait des coups de feu, donc tout le monde allait se cacher. Et puis, on allait chez un ami pour passer l'après-midi à la piscine. Et puis, devant le portail, quelqu'un venait avec une grenade et nous menaçait de la découpiller. C'était ce mélange-là qui fait que qu'on avait l'impression, ce sentiment que chaque jour était peut-être le dernier, mais qu'on n'allait quand même pas s'arrêter de vivre. Et je sais pas très bien comment on se remet de tout ça. Et puis, la liberté dont je parlais, je continuais à l'avoir, c'est-à-dire la liberté d'aller traîner dans le quartier. Et donc aussi d'assister à des... Voilà, c'était plus du jeu. J'assistais à des scènes que je n'aurais jamais dû voir, des scènes de violence. Et donc, oui, c'était un moment qui reste un moment dense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi que j'ai certainement tenté d'oublier. Ce qu'il faut dire peut-être pour comprendre, c'est que... Au moment où le coup d'État a lieu, je suis avec ma petite sœur au Burundi. Ma mère vit en France. Et mon père a eu un accident très bête. Il s'est cassé la jambe. Et il a été évacué en France. Donc nous nous retrouvons dans la guerre, ma sœur et moi. Donc j'ai 11 ans. Elle en a 8. Et donc on fait face à cette situation tout seul. Des gens, parfois, viennent à la maison pour s'occuper de nous, mais on est quand même très seuls. Et lorsque mon père revient, eh bien, juin 94, enfin, c'est 94, on est allé vivre quelques temps en France, chez notre mère, mais quelques mois, parce qu'on était seuls. Et donc, nous-mêmes, nous revenons, et mon père a un travail où il doit s'occuper de camps de réfugiés, à la frontière du Rwanda. Et donc, on va au Rwanda. Et donc là, c'est 94.
Juin 94, voilà. Le génocide a encore lieu.
Donc, on y va en juillet. Mon père commence le travail en juin, et puis on y va en juillet. Voilà, moi, je découvre aussi la réalité de ce qui s'est passé au Rwanda à ce moment-là. Et on va rester encore un an avec la violence qui ne s'arrêtera pas, jusqu'au mois d'avril 1995, où des avions de rapatriement pour les ressortissants européens vont venir à Bujumbura, et l'école française sera fermée. Et à ce moment-là, avec ma sœur, on décide de partir.
Et là, une autre vie commence, celle qui est à Paris, en France, enfin à Paris. À côté de Paris, à Versailles, avec votre mère, d'abord dans l'Ain, et puis ensuite à Paris, en tous les cas en France. Et c'est ce que nous verrons demain dans le deuxième épisode. À suivre l'épisode 2 à français. Merci Gaël Faye.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Gaël Faye, réalisation Gaël Gillon, prise de son Corentin Bailly, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.